étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.
Bonsoir, bienvenue sur Radio B dans Roman de Gare, l'émission consacrée à l'écriture et à la lecture. Un jeudi sur deux, à 18h30, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture. Sans oublier nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Pour cette 60e édition de Roman de Gare, j'ai le plaisir d'accueillir le romancier saône-et-loirien Christophe Royer dans les deux derniers romans en date, un thriller L'Escadron Blanc et un thriller fantastique pour les jeunes adultes Doors Game, année 1989, sont parus respectivement en auto-édition le 31 octobre 2025 et aux éditions Hello le 10 avril 2026. Christophe, bonsoir.
Bonsoir.
Tu étais venu à notre rencontre le 17 octobre 2024 et nous avions évoqué la sortie de ton roman « Famille décomposée » paru aux éditions Tornada le 18 janvier 2024. Il s'est donc écoulé un peu plus d'un an et demi. Entre l'écriture et la sortie de tes deux nouveaux romans, les salons et les séances dédicaces, tu as eu le temps de faire le point sur ton activité et tes envies de romancier.
Oui. Oui. En fait, le point, en général, il est assez rapide, quoi, parce que j'ai pas le temps de trop prendre du recul, qu'il y a déjà des projets qui s'enchaînent. Et comme il n'y a pas un projet qui commence, et qui, enfin, il n'y a pas un projet qui se termine et il y en a un autre qui commence, c'est un peu comme dans le cinéma. Il y en a plein qui sont en parallèle et qui sont plus ou moins avancés, quoi.
Tu nous avais déclaré travailler sur plusieurs projets littéraires loin des aventures de ton héroïne Nathalie Lesage. Alors que devient la commandante de la criminelle de Lyon ?
Mais effectivement, je l'avais mis un petit peu au repos parce que régulièrement, quand il y a des romans qui me touchent personnellement, des thématiques qui me touchent personnellement, en fait, ça va pas avec mon héroïne. Donc en fait, bah, je la mets tranquillement en repos. Hein. Elle va continuer à faire ses enquêtes, mais elles ne seront pas décrites. Et je la reprends un peu plus tard. Donc c'est vrai qu'il y a une forte attente pour la prochaine aventure de Nathalie Lesage que je suis en train de terminer.
Tu avais fait une infidélité à Nathalie Lesage avec ton roman La Quatrième Feuille. Peut-on dire que le verre était dans le fruit? Tu n'avais plus envie de personnages récurrents? Tu avais moins envie d'un personnage récurrent?
Non, c'est pas ça. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est que quand il y a des thématiques, là, pour La Quatrième Feuille, je parlais des profils psychologiques particuliers, qui est les personnalités toxiques. Et en fait, c'était en partie une histoire qui était arrivée à la fille d'une amie. Donc, je ne voyais pas trop le rapport avec Nathalie Lesage. Ce n'était pas dans son univers. Et donc, c'est pour ça que j'avais fait ce qu'on appelle un one-shot, où j'avais laissé temporairement mon héroïne. Donc après, il y avait eu deux nouvelles histoires avec Nathalie Lesage. Là, j'ai fait un break avec L'Escadron Blanc, qui est également une histoire qui me touche particulièrement. Et là, je suis reparti pour un cycle au moins d'un ou deux Nathalie Lesage.
Alors le premier des deux romans parus depuis ta venue dans nos studios est L'Escadron Blanc. Tu l'as publié en auto-édition. C'est forcément une prise de risque, une prise de risque que tu avais calculée, j'imagine.
C'est moins une prise de risque dans le sens où, en fait, c'est les maisons d'édition qui n'ont pas pris le risque de l'éditer. je ne sais pas pourquoi. Peut-être que le thème ils étaient trop craintifs par rapport au thème que je décris dans L'Escadron Blanc. J'ai eu des retours un peu surprenants des maisons d'édition. Et j'avais pas envie qu'ils soient lissés, j'avais pas envie qu'ils soient édulcorés. Et c'est pour ça que j'ai un roman qui sort en auto-édition et qui est exactement ce que je voulais. Et clairement, les retours des lecteurs et des lectrices, ils sont assez éloquents et me confirment comme quoi j'ai pris la bonne décision.
Tu n'es pas tout seul dans l'aventure de l'auto-édition puisque tu as travaillé avec Nelly Burglin-Razik.
Oui, c'était mon ancienne agent littéraire.
Voilà. Ouais. Voilà, donc elle s'est découverte un nouveau métier. Qui a décidé l'autre de travailler ensemble?
En fait, elle bourlinguait déjà pas mal sur beaucoup de salons. Elle a quand même pas mal un joli carnet d'adresses. Elle connaissait déjà beaucoup d'auteurs. Et puis, c'est vrai qu'elle s'est spécialisée dans le thriller, dans tout ce qui était dans cet univers un peu particulier. Et donc, elle s'est lancée dans l'aventure et puis elle a constitué son équipe d'auteurs qui s'est affinée au fil du temps. Et puis, les années passant, elle a décidé de changer un petit peu, de lever le pied. Et c'est pour ça qu'elle s'est enfuie de Lyon pour partir dans sa Bretagne.
Quand je dis qu'elle s'est découverte un nouveau métier, parce qu'elle a travaillé avec toi sur le nouveau roman.
c'est fait partie des prestations qu'elle faisait. C'est-à-dire qu'effectivement, elle s'occupe en général du planning des auteurs, elle s'occupait également de la communication, et surtout, elle faisait également du travail éditorial. C'est-à-dire que quand on envoie le manuscrit brut, elle va faire une première lecture avec savoir si c'est intéressant, la recherche des incohérences, etc., etc. Donc effectivement, elle vous aide, elle accompagnait avant que le manuscrit soit présenté à des maisons d'édition.
Alors ça fait quoi de paraître un roman en auto-édition ? On est à la fois romancier, éditeur et distributeur ?
Distributeur non, parce qu'en fait maintenant, c'est vrai que moi j'ai commencé en auto-édition avec mes deux premiers romans de science-fiction, où j'ai fait effectivement tout de A à Z, de la couverture à tout. Sauf que maintenant, dans l'auto-édition, il y a quand même des plateformes d'auto-édition qui donnent à peu près les mêmes services qu'une maison d'édition. C'est-à-dire que, il y a quelques frais, mais franchement, ce n'est pas très onéreux. Et je ne parle pas forcément des grosses plateformes très connues, mais on peut trouver là où est sorti l'Escadron Blanc, hein, c'est du livre à la demande. La distribution, je ne m'en charge pas, quoi. Les gens le commandent sur n'importe quelle plateforme, le commandent en librairie. Et moi, je ne gère pas, je vois juste les ventes. Et puis, par contre, tout ce qui est envoi, c'est géré par la plateforme. Donc, en même temps, ils prennent également leur commission, comme si c'était une maison d'édition. Donc, maintenant, avec l'expérience, hein, que ce soit pour la couverture, je ne l'ai pas bricolé à la main et surtout pas avec de l'IA. Je suis passé par une belle infographiste qui a du talent et qui m'a fait une couverture qui est très originale et qui marque beaucoup. Ouais.
L'Escadron Blanc est paru le 31 octobre 2025. Peux-tu nous en raconter le quatrième de couverture ?
Ah oui, avec plaisir. Alors, L'Escadron Blanc, effectivement, il n'y a que le titre qui est blanc, parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est mon roman le plus noir que j'ai écrit. Hein. On va avoir deux histoires. C'est la première fois également que je m'essayais à ce type de structure. On va avoir deux histoires qui se déroulent en parallèle. La première histoire, on va suivre le voyage d'un homme qui se déplace en bateau, principalement sur les fleuves et les canaux. Et la particularité, c'est qu'en fait, il a attendu le décès de ses parents pour mettre en place une sorte de vengeance. En fait, il a une photo sur laquelle se trouvent différentes personnes et son objectif, c'est de les éliminer. D'ailleurs, c'est comme ça que s'ouvre le roman, avec l'exécution très très violente d'un dentiste du côté de Lille, où il va commencer donc à réaliser sa mission. Donc ça, c'est pour la première histoire. Donc la deuxième histoire, elle se situe à Aix-en-Provence, où là on va suivre deux jeunes qui se rencontrent un peu par hasard, qui ont l'ambition de devenir un peu journaliste et en particulier un peu lanceur d'alerte. Et ils vont décider, parce qu'il y en a un des deux qui a une idée, ils vont commencer à faire des recherches par rapport à un médecin un peu véreux. Et plus ça va aller, plus en fait ils vont mettre les pieds dans un truc qui va vite être dépassé et qui va être de plus en plus noir, plus en plus compliqué. Donc voilà ces deux histoires. Et en fait, le but du jeu, c'est que pendant quasiment tout le livre, le lecteur ou la lectrice va se demander mais quel est le rapport entre ces deux histoires ? Parce que forcément, on se dit forcément que ça va se croiser. Et je les mène en bateau, c'est vraiment le cas de dire. Jusqu'à la fin, quasiment, avec une énorme surprise, avec un double twist, etc. Et c'est vrai que pendant tout le livre, on est vraiment brassé avec ces histoires noires qui touchent le milieu médical. Ça, c'est un peu le point commun avec les deux histoires. Et plus on va avancer, plus on va halluciner. Et après, le dernier coup de pelle derrière la tête, c'est que quand on apprend que ce qui se passe à Aix-en-Provence, c'est tiré d'un scandale d'État qui a été largement étouffé par le gouvernement français, ça permet encore de rentrer dans une autre dimension.
Alors, L'Escadron Blanc est, je cite, ton marque-page. Je cite même ton marque-page.
Magnifique.
un thriller glaçant inspiré de faits réels. Peut-on en savoir plus sur ces faits réels ou il n'est réservé qu'à celles et ceux qui auront lu ton roman en entier ?
Non, c'est ce que je disais. Effectivement, quand j'écris un livre, hein, je m'abreuve de plein de choses qui sont stockées dans plein d'endroits de ma tête. Et au bout d'un moment, quand je vois qu'il y a certains morceaux de puzzle qui peuvent se réunir, je commence à créer mon histoire. Donc effectivement, j'ai plusieurs faits divers qui tournent autour du médical, sur ce scandale d'État qui est très récent, hein, mais qui a complètement été passé sous silence. Ça me permet effectivement, dans le milieu médical, ouais.
On peut citer les faits réels ou pas ?
Alors, Pas forcément les faits réels, parce que c'est vrai que ça commence assez vite et j'ai envie de garder un peu le suspense. Ouais, mais ouais. Au niveau du scandale d'État, oui, c'est quelque chose qui a duré presque 25 ans. Alors moi, j'ai délocalisé ça à Aix-en-Provence, mais l'histoire originelle se déroule dans une faculté de Paris, Descartes, faculté de médecine, où ils hébergent le centre de donneurs de corps, c'est-à-dire que on peut décider, lorsque décède une personne, ou de léguer son corps à la science. Et ben là, on s'aperçoit que non seulement les corps étaient dans des conditions conservés dans des conditions lamentables et donnés aux étudiants de médecine dans une hygiène épouvantable, mais surtout, c'est qu'il y avait tout un trafic et une organisation autour des corps humains qui est derrière. Donc, c'est suite à des parents qui ont demandé des justifications de savoir qu'était devenu le corps de leurs grands-parents ou autres. Et ben, ils se sont aperçus que certains se retrouvaient en poudre au fin fond de l'Afrique ou vendus pour faire des expériences plus ou moins sérieuses, quoi. Donc c'est quelque chose où beaucoup de personnes trempaient. Forcément, il y avait de l'argent derrière, des politiques, des personnalités célèbres, particulièrement au niveau scientifique. Et il y a eu un procès il y a un an et demi, et par contre, je pense qu'il y a eu 2-3 personnes qui ont dû sauter, style le doyen ou des choses comme ça. Mais voilà, ça n'a pas fait de vague, quoi.
Comment s'est déroulé ton travail de documentation et de recherche ?
J'ai fouillé, et si vous fouillez également sur Internet, hein, vous allez trouver encore quelques émissions, quelques replays qui parlent de ce sujet. Et puis, il y a quand même un livre très dur qui est sorti avec carrément un feuillet d'images, de photos, hein, qui sont scellées, parce qu'il faut non seulement avoir plus de 18 ans, mais il faut avoir le cœur bien accroché, parce que c'est quand même très glauque, les images qui ont été prises de tout ça. Ouais.
Alors l'histoire s'ouvre sur le meurtre sauvage d'un dentiste à Lille. Pourquoi avoir choisi cette profession pour débuter le roman ? T'as été marqué par un dentiste en particulier lorsque t'es petit, une sorte de vengeance personnelle que je peux partager d'ailleurs ?
Oui, oui. Alors c'est vrai que étant petit, c'est vrai que le bruit de la roulette de dentiste ne m'a jamais trop. m'a toujours fait un petit peu peur, quoi. Mais non, ouais, effectivement, quand on comprend l'histoire, c'est vrai que les différentes personnes qui sont tuées ont tous un lien avec le milieu médical, et c'est pas par hasard, forcément. Et donc, traditionnellement, pour ouvrir un bon thriller, ça commence souvent par un bon meurtre, hein. Et donc là, effectivement, ce dentiste-là qui prenait soin de lui dans une chaîne de sport, quoi. D'un seul coup, il pense tout seul à se muscler, à se rendre le plus beau du monde avec une dentition parfaite. D'un seul coup, il y a un gars qui rentre avec une capuche et qui va discrètement arriver derrière lui. Et voilà, quoi.
T'as pensé à quelqu'un de particulier ? Non ? Même pas ?
Non.
Inconsciemment non plus ?
Non, inconsciemment non.
Tu fais voyager ton tueur à bord, tu le disais, à bord d'un bateau à travers la France.
Oui.
Qu'est-ce que ce mode de déplacement apporte à l'ambiance et au rythme, justement, de la traque ?
En fait, mon héros, mon personnage principal, est issu d'une famille de bateliers. Donc en fait, depuis tout petit, là, il travaillait avec ses parents. Et donc, il avait des grandes péniches, et principalement sur le Rhin, où il a passé sa vie sur l'eau, quoi. Et j'ai trouvé ça très original, ce moyen de locomotion, parce qu'on s'aperçoit que, un peu comme les sites de navigation, hein, quand on veut partir d'un point A pour aller vers un point B, ça nous donne le temps, la distance, les différentes étapes. Et pour un batelier, il est à Lille et qui veut aller à Marseille, il va avoir exactement le même genre d'outils. Et ça permet d'avoir comme ça, il va mettre 5 jours pour faire le voyage, il va traverser 54 écluses, etc., avec les heures d'ouverture. Et donc ce mode de transport, déjà, c'est très original, parce que les policiers, à chaque fois qu'il y a quelqu'un à un meurtre, ils ne vont pas se douter une seconde que le tueur est en train de se barrer à 10 km/h sur le canal du coin, quoi. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis il y a le temps, quoi, parce qu'à 10 km/h, on a le temps de réfléchir, on a le temps de se préparer. C'est un rythme complètement différent. Et c'était plutôt sympa à avoir cette dualité entre ce rythme plutôt lent. Et alors que quand je suis en Aix-en-Provence, avec mes deux jeunes apprentis journalistes, ça va beaucoup plus vite, quoi. Ouais.
C'est compliqué de faire déplacer un meurtrier sur un bateau. La France traverse facilement.
Oui, c'est ce que je viens de dire. Ouais.
À ce point-là.
Il y a... c'est bien foutu, même si le réseau est en train de se dégrader à vitesse grand V. Il y a vraiment la possibilité, depuis le nord de la France, à aller rejoindre la Méditerranée. Hein. Et on peut quand même aller voir un certain nombre de villes. Hein.
Le mystérieux tueur qui sillonne la France fait preuve d'une violence extrême. Oui. Cherches-tu à ce que les lectrices et les lecteurs ressentent une certaine empathie ou du moins comprennent les motivations de ce monstre ou s'agit-il d'une pure figure de terreur ?
Non. En général, ça fait partie des principes de base quand on écrit un thriller, c'est qu'on n'écrit pas pour remplir des pages ou on ne remplit pas pour faire peur ou on ne remplit pas des... Il faut que tous les éléments qu'on met servent à un moment ou à un autre au livre, soit pour créer de l'ambiance, soit parce qu'il y a un détail qui va ressurgir. Et c'est vrai que là, je me suis bien lâché sur les meurtres. C'est vrai qu'ils sont très, très, très violents. D'ailleurs, ça étonne le meurtrier lui-même, hein, parce qu'il ne pensait pas qu'il était capable d'autant de violence. On sent bien qu'il y a de la haine à l'intérieur de lui-même. Hein. Et ça, justement, on va voir l'évolution de ce personnage. J'ai pris le temps, pour une fois, je n'étais pas restreint par un nombre de pages ou un nombre de caractères. Donc, c'est vrai que ce livre est un petit peu plus conséquent en termes de pages. Et ça m'a permis, qu'on commence avec cette personne qui est très, très violente. Et au fur et à mesure, on va comprendre pourquoi elle est violente. Et on va même, je pense, la plupart des lecteurs vont complètement changer d'avis. Malgré les faits, ils vont complètement changer d'avis et son opinion par rapport à ce personnage.
Alors, l'intrigue repose sur deux trajectoires géographiques et humaines très distinctes. Lille, Aix-en-Provence. Comme si tu avais voulu écrire deux romans, ça aurait pu être le cas ou...
Non, parce que depuis le début, moi, quand j'écris un roman, j'ai tout le temps la fin. Donc, je savais comment ça allait finir et il fallait que j'amène tout ça et... Bah, c'est pour ça que j'ai mis plus de temps que les autres à l'écrire, parce qu'il y avait vraiment une petite mécanique, c'est vraiment quasiment au mot près, pour que les chapitres s'intercalent bien, pour que les révélations collent avec l'autre histoire. Donc c'était vraiment de la petite mécanique et il m'a fallu un petit bout de temps pour tout régler. Et c'est vrai que c'était passionnant et je me suis amusé. Le résultat, je suis très fier du résultat, ouais.
Lorsque tu as écrit L'Escadron Blanc, quelle part as-tu laissé à l'improvisation ? Tes personnages et leurs caractères t'ont parfois fait changer l'histoire.
Oui, bah ça c'est un peu aussi ce que je dis à mes étudiants, c'est que une fois que votre personnage il est créé, une fois quasiment un peu à la manière de Pinocchio, une fois qu'il commence à prendre vie, en fait, bah, vous le lâchez dans votre histoire et il avance tout seul. Hein. C'est un peu bizarre de dire ça, je vais bien au niveau santé mentale. Mais c'est vraiment, c'est lui qui va faire des choses. Et c'est vrai que si on a eu dans l'idée d'avoir une scène particulière et que bah, quand le héros arrive, il dit bah, « non, c'est pas possible, je vais pas pouvoir faire ça », et ben, effectivement, ça peut orienter et changer l'histoire qui a été prévue. Quand je commence l'écriture, j'ai pas quelque chose de figé dans le marbre. J'ai beaucoup de zones d'ombre. Je connais les différentes étapes que j'ai prévues dans mon livre, mais je ne sais pas comment aller entre chaque étape. Ce qui permet d'avoir ce côté encore spontané au niveau de la créativité. Et voilà, ça ne me fait pas peur de ne pas savoir ce que je vais écrire dans une semaine.
On découvre Nathan à Aix-en-Provence, un jeune homme en manque de confiance et en quête de reconnaissance. Pourquoi avoir choisi un profil si vulnérable comme l'un des pivots de l'histoire ?
Bon, il n'est pas si vulnérable que ça. En fait, on va comprendre que effectivement, il a un peu plus de, je crois que c'est 23 ans. Il a quitté Aix-en-Provence parce que voilà, c'était un peu compliqué. Il n'était pas un foudre de guerre au niveau des études, un petit peu feignant. Et puis son père avait pas une grosse estime de lui, donc il a choisi la fuite et donc il est parti tenter l'aventure en Australie. Et en fait, c'est l'anniversaire du 80e, 80 ans du débarquement de Provence qui fait qu'il revient pour faire un reportage avec un ami australien. Et bah, il va être obligé de renouer un peu avec sa famille. Et c'est vrai qu'il va se retrouver mêlé avec cette histoire entre sa famille, entre cette jeune journaliste avec qui il fait la rencontre, plus son ami australien. On a, on a un peu un espèce de club des quatre qui est plutôt sympathique et à qui on va suivre les aventures.
Alors Nathan fait équipe avec une lanceuse d'alerte. Comment définirais-tu la dynamique de leur duo ? Est-ce une relation de complémentarité ou de confrontation ?
C'est compliqué parce que lui, en tant que jeune homme, il est attiré par l'enquête, mais il est également attiré par cette journaliste qui est un petit peu trouble. C'est plutôt elle qui va le mener à la baguette. Hein, donc, d'ailleurs, ça va souvent l'énerver hein, parce qu'il a envie de l'aider au maximum, sauf qu'il voit bien que c'est elle qui a envie de presque faire les choses toute seule et que lui, il est là juste pour l'accompagner. Et il va essayer, pendant le livre, d'essayer de percer ce caractère un petit peu particulier pour essayer de qu'il soit d'égal à égal et peut-être plus. Ouais.
En intégrant une lanceuse d'alerte au cœur de l'intrigue, voulais-tu rendre hommage à ces personnes qui prennent des risques immenses pour la vérité dans le monde réel ?
Oui, c'est vrai que c'est un thème qui me touche parce que on est tellement manipulé, il y a tellement de sans rentrer dans le complotisme, hein, mais c'est vrai que ça fait du bien de savoir qu'il y a quand même des gens qui ont une droiture, qui ont des valeurs et qui font se battre, quitte à risquer leur vie, pour que la vérité sorte. Donc effectivement, c'est fait partie des thèmes qui me touchent. Oui.
Les personnages de l'Escadron Blanc sont souvent décrits comme imparfaits, mais attachants. Alors, est-ce une volonté de ta part de fuir les clichés des héros de thrillers infaillibles ?
Oui, et puis de toute façon, moi le premier, hein, c'est bien pour ça que quand j'ai commencé à écrire des thrillers, j'allais sûrement pas partir avec l'éternel flic déprimé, alcoolique, qui doit gérer son ex-femme, éventuellement un ou deux gamins, et que le gars il est tout le temps perturbé, mais qu'à la fin il réussit quand même. Donc ça, j'en pouvais plus, c'est pour ça que je suis parti avec une Aurine, hein, avec Nathalie Lesage, qui est tout à l'inverse, qui est jeune, qui a la niaque, voilà, avec son côté un peu féministe, qui navigue dans cet univers de flic homme. De toute façon, les personnages, s'ils sont trop caricaturaux, ça n'accroche pas, et les lecteurs ou les lectrices sont les premiers à vous le dire, en disant « ouais, bon, ouais, voilà ». De toute façon, même le pire des méchants, il a quand même un côté humain, donc on n'est pas noir, on n'est pas blanc, on est des variantes, et puis en fonction de la journée, de la période, on va faire ressortir l'une et l'autre. Donc effectivement, ça fait partie, des bases de l'écriture du thriller, c'est que les personnages, ils ne doivent pas être trop caricaturaux, moi je ne vais pas y arriver, mais par contre, on peut un peu plus se lâcher quand c'est des personnages secondaires.
Quel personnage a été le plus difficile ou le plus éprouvant à façonner sur le plan psychologique ?
C'est Nathan. C'est Nathan. L'Escadron Blanc a été réécrit 3 fois. Donc je ne parle pas des petites corrections, des lectures. C'est qu'il a vraiment été toute la partie par rapport à Nathan, entre la première version et la troisième, parce que je l'avais affublé d'une autre caractéristique psychologique qui en fait n'apportait rien, brouillait les pistes, perturbait les bêta-lecteurs. Et comme il y avait déjà en fait trop de thèmes, il y avait déjà pas mal de thèmes, ça portait rien et on s'est aperçu qu'en éliminant complètement ça et de le transformer un petit peu son profil psychologique, ça matchait et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de réécriture.
Où s'arrête la justice et où commence la vengeance dans l'esprit des protagonistes et du tueur dans l'Escadron Blanc ?
Ça c'est un peu la question qu'on se pose tous régulièrement, surtout quand on est devant des faits divers ou des choses de l'actualité, hein. Quand on voit que la justice ne fait pas son travail, on a un sentiment justement d'injustice et on a le réflexe naturel de vouloir se faire justice soi-même. Ça engage aussi beaucoup de choses et ça peut être très dangereux parce que si on commence à se faire justice, on va tous acheter des pistolets, on va se retrouver au temps des Far West et puis on évite avec la bavure. Mais c'est vrai que je me pose souvent la question, s'il y avait quelque chose à mon fils, est-ce que je me vengerais pas ? Peut-être, je sais pas. C'est vrai que c'est une question très compliquée et c'est vrai qu'elle est très d'actualité en ce moment.
Alors, y a-t-il des scènes dans ce roman que tu as dû censurer ou adoucir, soit par pudeur, soit parce qu'elles étaient trop dures, même pour un thriller ?
Oui. Malheureusement, le scandale d'État, je donne beaucoup de précisions. Il y a des choses, il y a pas mal de détails. Mais par moments, il y a des détails tellement sordides que c'est souvent ce que je dis, c'est qu'on a l'impression après que l'auteur a voulu en mettre un maximum pour vraiment choquer le lecteur, alors que c'est la réalité. Et souvent, je dois édulcorer les détails parce que finalement, ça apporte rien. On a bien compris que c'est ignoble et que c'est pas la peine de rajouter des détails parce que on a l'impression que c'est une surenchère et même le lecteur ou la lectrice vont dire voilà, c'est bon quoi, il pousse un peu, ça sert à rien quoi. Sauf que la réalité est souvent pire que la fiction quoi.
L'accueil d'un roman basé sur des dérives réelles suscite souvent de vives réactions. As-tu des appréhensions ou subi des pressions au moment de révéler ces pratiques terrifiantes ?
Non, parce que moi, si j'ai trouvé les informations, je me dis que n'importe qui s'intéresse au sujet va les trouver. Après, comme j'étais en auto-édition, j'avais pas d'enjeu. Peut-être que ma maison d'édition habituelle, alors je ne sais pas s'ils ont été aussi loin dans le livre, mais peut-être que ça leur a fait un peu peur de rentrer dans ce type de thématique, peut-être.
Alors après avoir lu L'Escadron Blanc, les lectrices et les lecteurs se retrouvent face à des réalités dérangeantes qu'on préférait peut-être ignorer. Considères-tu le thriller comme une arme politique ou citoyenne pour éveiller les consciences?
C'est des grands mots,
mais...
Non, mais c'est quelque chose qui... Le thriller permet ce genre de choses. C'est-à-dire que, bon, d'abord, un thriller, pour moi, ça veut dire je vais passer un bon moment, je vais apprendre plein de choses, je vais être surpris par la fin, je ne vais pas voir le livre passer. Et si, au passage, j'apprends plein de choses, et si, en plus, je peux faire réfléchir un petit peu en posant quelques valeurs que j'affectionne, je trouve que le thriller s'y prête bien, quoi. Et souvent, je parle à travers mes personnages pour lancer des petites phrases ou pour donner mon opinion. Alors après, ce qui est super dur, c'est que parfois les lecteurs et les lectrices pensent que tout ce que je vais dire ou faire dire par un personnage, c'est forcément ce que je pense. Si d'un seul coup j'ai un personnage qui est un nazi, c'est pas parce que j'ai des opinions dans ce sens-là. Donc c'est super dur parce qu'il y a quand même beaucoup de lecteurs et lectrices qui n'arrivent pas à séparer l'auteur de ce qu'il écrit. Et effectivement, des fois, ça peut être un peu tendu parce que, surtout sur les réseaux sociaux, quand on est en face à face, en général, au bout de 10 secondes, ça y est, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, il faut faire très attention parce que ça s'emballe très très vite. Ouais. Donc,
Comment as-tu géré le retour à la vie, on va dire, normale, après avoir passé des mois immergé dans une intrigue aussi noire et réaliste,
hein? Bon, en général, quand on finit un roman, on met le mot fin, mais on reste toujours encore quelques jours sur le roman parce que c'est quelque chose qui vous a occupé la tête pendant plus d'un an. Et l'Escadron Blanc, j'ai eu un mal de fou à passer à autre chose. Et même, j'en suis pas encore remis. Ça va faire l'écriture, donc maintenant, à peut-être 8 mois, ouais, facile, 8-10 mois. Ça a été très très dur de reprendre un autre roman avec Nathalie Desage, par exemple. Et il y avait tellement de tensions et d'énergie que j'ai mis dans ce roman que Nathalie Lesage, c'est du Nathalie Lesage, mais il est beaucoup moins noir. Il est très bien, il va être très bien, mais effectivement, j'ai du mal à sortir de l'Escadron Blanc. Il m'a marqué. Ouais.
Alors un autre sujet abordé, c'est le débarquement de Provence, dont tu fêtes à ta façon les 80 ans. On parle beaucoup du débarquement de Normandie, on parle beaucoup moins de celui qui a eu lieu à partir du 15 août 1944 entre Cannes et Toulon. Pourquoi avoir rappelé cet autre événement de la Deuxième Guerre mondiale à travers le roman L'Escadron Blanc ?
Déjà parce que j'étais à Aix-en-Provence, que j'avais besoin de cette ville pour avoir une fac de médecine du côté de Marseille. En fait, j'étais surpris qu'effectivement, il n'y en a que pour le débarquement de Normandie. Sauf que s'il n'y avait pas eu celui de Provence, on n'en serait pas là également aujourd'hui. Donc ça m'a intrigué, donc j'ai un peu fouillé, j'ai vu des choses qui m'ont choqué, j'ai vu des choses que je n'ai pas comprises. Et puis effectivement, quand on se promène vers Cavalaire et autres, on voit des monuments de débarquement qui sont presque invisibles, quoi. Il faut vraiment s'arrêter pour dire « Ah bon, mais il y a eu un débarquement ? Ah oui, mais quand ? Mais... » Et quand on comprend et on voit l'histoire, on se dit, mais c'est incroyable, quoi. Mais comment ça se fait qu'on n'en sait pas plus ? Même De Gaulle, qui devait normalement faire un discours pour féliciter ce débarquement, il s'est arrêté à mi-chemin, il a fait un petit discours, il a fait demi-tour, il n'a jamais été jusqu'en bas. Donc, bon, je ne voudrais pas en discuter maintenant parce que j'ai un peu mon opinion d'après ce que j'ai vu. Mais voilà, donc moi, derrière, il y a des choses qui ne sentent pas bon et on n'en parle pas pour des mauvaises raisons. Et alors que grâce à ces soldats principalement venus d'Afrique, si ce n'était pas là, on n'aurait pas libéré toutes les belles villes du Sud. Hein.
Alors justement, Liam, le copain de Nathan, l'Australie, son pays, a participé au débarquement de Provence. Sans Liam, Nathan serait-il revenu en France ? Et puis sans Liam, il n'y aurait peut-être pas eu de roman ?
Oui, je ne me suis pas posé la question aussi loin. Mais c'est vrai que Liam, c'est un peu, par rapport à Nathan, Liam, c'est un peu son ange gardien. C'est-à-dire que Nathan, il est un peu foufou. Donc, quand il se bat dans un bar, il y a Liam qui est très athlétique. Hein, c'est un arborigène, il est costaud. Et en deux temps, trois mouvements, il va sortir Nathan. Et puis, c'est quelqu'un qui est très enraciné avec ses origines arborigènes. Donc, il a une philosophie et il est tout le temps là en train de tempérer un peu Nathan et lui apporter à travers sa culture et sa sagesse, il le canalise, hein, tout simplement. Et c'est vrai que ce duo marche bien parce qu'il y en a un qui canalise et puis on a ce Liam qui va découvrir la France, que c'est la première fois qu'il va quitter l'Australie, donc c'est également intéressant de ce côté-là.
Liam est quelqu'un de plus sûr, plus pondéré et réfléchi que son ami Nathan. Il apporte une vraie touche d'humanité et puis de recul dans ce roman. Sans lui, l'histoire aurait pu se terminer plus tôt avec une fin différente.
Oui, oui, bah, c'est un peu comme dans la vraie vie. Hein. C'est en fonction de nos rencontres, c'est en fonction de nos actions qui vont que soit on va se mettre encore plus dans les ennuis, ou soit ça va libérer une solution beaucoup plus rapide. Ouais. Effectivement, j'avais besoin de cet équilibre. Hein, donc on se retrouve avec ces quatre personnes, avec donc Liam l'Australien, Nathan l'apprenti journaliste. On a également deux autres personnes, donc la journaliste avec qui il va travailler, et puis une quatrième fille. Comme ça, on a deux garçons, deux filles. Et cette femme, elle est dans l'enseignement, et voilà, c'est une ex-amour de Nathan.
L'univers de l'Escadron Blanc et les thèmes soulevés sont vastes. La fin du roman appelle-t-elle une suite ?
Ou non. Non, je pense que tout est dit. La fin est assez marquante. Hein. J'ai beaucoup de retours par rapport à cette fin et qui en a brassé plus d'un. Donc non, à la fin, je dis rien. Mais effectivement, la fin est complète et je referme toutes les portes. Hein. C'est comme ça qu'on parle. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de porte qui reste ouverte pour une éventuelle fin ouverte. Et des fois, même dans les Nathalie, hein, je mets des choses qui pourraient faire croire que ça va continuer. Mais l'histoire peut reprendre plus tard, mais là, non, j'ai bien fermé toutes les portes. Il n'y a pas de frustration, on connaît toutes les ficelles. En tout cas, ça répond à toutes nos questions.
Tu ne t'es pas arrêté en si bon chemin, puisque le 10 avril 2026, aux éditions Hello, est paru un roman pas comme les autres, Doors Game, année 1989. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le roman Young Adult ?
Bah, c'est vrai que mon fond de commerce, entre guillemets, c'est les thrillers, mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé par écrire de la science-fiction. En fait, je suis pas forcément arrêté à un genre, et ça fait des années que j'avais envie d'écrire un truc vraiment qui m'éclate, qui est un peu ce genre de roman, le thriller fantastique, hein, j'en ai lu des tonnes, et j'avais envie de toucher un public plus jeune, parce que je vois bien que il y a de moins en moins de lecteurs chez les jeunes, et j'ai vraiment lancé cette collection, parce qu'il y en aura d'autres qui vont suivre, pour pouvoir aller faire des démarches et aller faire des prestations dans les collèges et lycées, pour aller voir ces jeunes et leur dire que la lecture, c'est pas une contrainte, que c'est un moyen de s'évader, leur expliquer tous les bienfaits, puis en plus, si on peut apprendre des choses. Et j'avais besoin d'écrire pour moi, pour m'évader aussi, un livre avec plein de niveaux de lecture qui va plaire autant aux ados, aux jeunes adultes et aux adultes, hein, ou aux vieux comme moi. Et c'est parti comme ça. Et c'est vrai que le premier tome, hein, ce premier livre, je me suis éclaté à le faire et je suis très heureux du résultat. Voilà, j'espère l'année prochaine faire beaucoup d'interventions dans les collèges et lycées avec ce roman.
Pourquoi avoir choisi précisément 1989 ?
1989, j'avais 18 ans. C'est l'année où j'ai rencontré ma femme. Donc, c'est une période qui m'a marqué. En fait, Doors Game, hein, on a, pour juste en parler 15 secondes, Doors Game, en fait, c'est le jeu des portes. Donc, effectivement, c'est une sorte d'escape game. En gros, vous prenez un escape game, vous le mélangez avec Jumanji et vous avez Doors Game. Sauf que j'ai mis ma patte, j'ai mis mes ficelles du thriller avec un twist à la fin et tout ce qui va bien. Et j'avais besoin, en fait, parce que ça peut se passer à n'importe quelle période. En fait, le principe, c'est qu'on a une maison que tout le monde connaît, que tout le monde voit, mais on ne voit jamais personne y vivre, alors que la maison, elle semble traverser les décennies. Et elle ne se détériore pas, les murs ne se fissurent pas, la végétation ne l'envahit pas. Et on ne sait pas trop, à tel point que les anciens disent qu'elle est hantée. On ne sait pas trop ce qu'elle est, on ne sait pas trop les propriétaires. Tout ce qu'on sait, c'est que régulièrement, il y a des jeunes qui rentrent dans cette maison et qui en ressortent à jamais transformés. Donc on ne sait jamais trop ce qui se passe. Et justement, comme cette maison est un peu intemporelle, donc la première histoire, elle se passe en 1989. Et après, donc, ces jeunes lycéens vont rentrer dans cette maison. Mais ça veut dire qu'il y aura d'autres Doors Game avec d'autres dates. Ça peut être des dates qui vont être peut-être plus vieilles, plus récentes, peut-être même dans le futur. Le but du jeu, c'est que cette date des années, la date qui est choisie, forcément, ça a un impact sur les personnages. Parce que, en 89, ils ne connaissent pas le téléphone portable. Donc, ils n'ont pas la même vision du monde qu'un jeune de maintenant.
Ton parcours initial, toi, est lié à la biologie et à l'informatique et tu avais déjà imaginé des concepts de jeux vidéo par le passé, il me semble.
Oui.
Dans quelle mesure ta propre histoire a nourri l'écriture de Doors Game ?
Oui, c'est vrai qu'il y a le côté scientifique que j'ai également au niveau des thrillers, c'est au niveau de la mécanique narrative. Et après, étant très curieux, je peux aller prendre plein de sujets différents dans tous les sens. En fait, moi, je suis fan d'aventure. Mes premiers romans, hein, c'est le Club des Cinq, les Bibliothèques Roses, c'est Jules Verne, c'est les grands romans d'aventure. Et je trouve que c'est dépaysant et on est transporté, on est pris avec les personnages et on découvre plein de choses incroyables. Hein. Jules Verne, c'est vraiment une source intarissable d'idées. Et puis, voilà, je suis fan de Léonard de Vinci. Voilà, toutes ces choses très scientifiques, très humaines et très créatives. Et pour moi, c'était une évidence d'emmener et de pouvoir, à travers ce jeu des portes, parce qu'en fait, derrière chaque porte, on va changer d'univers. Ça me permet justement d'aller piocher dans tout ce qui a bercé mon enfance, mon adolescence, tout ce que j'ai aimé, je le transcris d'une autre manière maintenant à mon tour.
L'écriture pour un public jeune adulte demande-t-il une gymnastique ou un rythme stylistique différent de celui de tes thrillers habituels ?
Un petit peu, mais pas autant que je pensais. Il y a quelques codes. Hein. Les jeunes aiment que soient décrits très précisément les personnages, par exemple. Alors que dans un thriller, on va dire classique, il suffit qu'on donne quelques traits et après, on va apprendre à connaître les personnages au fur et à mesure. Les jeunes, ils aiment bien avoir tout de suite comme une photo, une fiche, un peu comme dans les jeux vidéo, hein, une fiche du personnage avec... un peu comme Jumanji quand ils se tapent la poitrine et qu'ils ont leur particularité, leur spécialité. Les jeunes aiment bien être tout de suite vite cerné visuellement le personnage. Après, au niveau de l'écriture, justement, moi je me suis dit, est-ce qu'il faut avoir des verbes faciles ? Est-ce qu'il faut faire des phrases très courtes ? Est-ce qu'il faut être... Et puis je me suis aperçu en discutant avec eux, parce que j'avais des bêta-lecteurs âgés de 14 à 20 ans, qu'en fait, il faut écrire de façon normale. Hein, moi, je n'ai pas forcément une écriture qui va être extrêmement littéraire où il faut prendre le dictionnaire pour comprendre chaque mot de la phrase. Non, moi, j'ai plutôt une écriture laser où ça avance vite. Là-dessus, finalement, je n'ai pas eu besoin de modifier beaucoup. Après, ce qui est drôle, c'est que les personnes qui ont l'habitude de lire mes thrillers et qui ont lu ce Doors Game, ils me disent « Ouais, c'est sympa, ouais, c'est vrai que c'est de la littérature pour ados. » Alors que j'ai l'impression qu'on met une étiquette sur un livre et ça influence la vision de la lecture. Et c'est vraiment incroyable. Quoi. Ouais. Et elle dit « Oui, c'est des trucs que je n'ai pas l'habitude, mais c'était quand même une sacrée histoire quand même. » J'aurais fait un thriller. Alors, c'est vrai qu'il y a le côté fantastique, ça veut dire que y a un côté, effectivement, c'est pas non plus du délire absolu, mais il y a un côté fantastique. Ouais.
Et les adolescents, tes bêta-lecteurs, s'identifient facilement à tes personnages évoluant à la fin des années 80.
Oui, parce que les problématiques de ces adolescents, que ce soit en 80 ou en 2000 ou en 2010, étaient globalement les mêmes. Hein. Effectivement, en 89, on commençait à peine de parler du sida, donc il n'y avait pas le même comportement. Mais les problématiques, que ce soit des problématiques familiaux, du harcèlement, la timidité, des phobies, enfin tout ça... qu'on soit en 89 ou en 2026, c'est pareil. Et c'est pour ça que même si ça se passe en 89, finalement, on va voir que chaque ado a ses propres soucis. Et c'est des soucis qui vont parler à des personnes de maintenant.
Qu'a pensé ton fils de Doors Game ?
Je ne sais pas.
Il a l'âge de le lire, ce bouquin ?
Bah oui, il a 21 ans, donc qu'il a l'âge de le lire. Mais... voilà. Mais il faut savoir que j'ai commencé à écrire, déjà parce que j'avais cette idée de science-fiction, de livre, où je vais dire, je vais tout mettre dedans, ça va parler de manipulation génétique, avec des animaux qu'on transforme, on part dans l'espace, on découvre une nouvelle planète, on va découvrir une autre forme de vie. Donc c'était un peu à la Jules Verne, où il y a plein de choses, il y a même un ado, enfin vraiment, il y avait tout pour faire de l'aventure, et donc d'ailleurs, ça a été le résultat. Et c'était pour mettre, quelque part, une fois que le livre était sorti, pour le mettre dans les rayonnages de mon fils, quoi. Et alors, je sais pas si c'est voulu ou pas, mais j'en suis à mon dixième roman. Il a encore jamais lu une ligne de mes romans, quoi. Donc voilà, est-ce qu'il fait ça et qu'il les lira plus tard? Est-ce que... je ne sais pas. Donc c'est vrai que ça me ferait plaisir que si un jour il me dit qu'il les a lus. Mais pour l'instant, donc j'ai arrêté d'écrire pour lui. J'écris pour moi, j'écris pour me faire plaisir. Et si en plus ça peut plaire à d'autres personnes, ben, tant mieux.
Le genre de young adult offre-t-il forcément une liberté d'imagination que le thriller ou le roman policier a tendance à restreindre?
Oui, parce que forcément, le fantastique, je trouve ça, ça ouvre des portes de façon incroyable. Et on s'aperçoit que très régulièrement, il y a des romans comme ça qui explosent et qui sont après mis au cinéma. Hein. On pense tous à Hunger Games et compagnie. C'est vrai que moi, c'est le genre de choses que je suis très très fan. Et si j'avais un peu plus de temps, je pourrais enfin écrire un livre, mon propre Hunger Games, qui est dans ma tête depuis 2-3 ans. Ça ne serait pas un Hunger Games, parce que ça serait un peu trop facile, mais ça serait ma vision d'une série qui s'appelait Le Prisonnier, que je mettrais à ma sauce, quoi, avec des technologies un peu plus actuelles.
Dans ce game sonne comme le début d'une aventure, année 1989. Est-il conçu comme un tome unique ou les lectrices et les lecteurs doivent-ils s'attendre à une suite, une autre année, une autre époque, d'autres époques?
C'est ça, ouais, c'est ça. Il y aura d'autres. Alors, par contre, quand vous lisez Dans ce game, vous pouvez le lire et je ferme quasiment toutes les portes à la fin. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de frustration. Par contre, oui, il y a un deuxième volume qui est prévu avec une autre date. Et ça va être même les règles du jeu vont complètement changer, vont évoluer. Et par contre, pour quand même qui est quand même un petit plus, c'est que effectivement, on va essayer au fil des volumes de vous en apprendre un peu plus sur les origines de cette maison, justement pour savoir mais pourquoi elle réagit comme ça, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc., etc. Donc il y aura quand même un petit fil rouge sur où on va apprendre des choses sur la maison. Mais après. Ça me permet de pas être trop restreint et de partir et de me remettre quasiment, de faire un reset et de repartir avec d'autres adolescents. Là, ils sont 4, 2 filles, 2 garçons, mais peut-être que le prochain, il y aura 4 garçons, 3 filles, un mec tout seul, plusieurs groupes. Enfin voilà, on peut tout imaginer. Et justement, avec ces portes qui peuvent vous envoyer soit dans un autre endroit de la Terre, soit à un autre endroit de la Terre, mais à une autre époque ou carrément dans un monde imaginaire, ça ouvre toutes les perspectives et c'est ça que j'adore, quoi.
Comme à ton habitude, tu es reparti faire le tour des salons, des médiathèques, des librairies pour présenter L'Escadron Blanc et Doors Game année 1989. Tu es connu et reconnu dans le monde du thriller et du roman policier, moi dans le monde du thriller fantastique à l'attention des jeunes adultes. C'est l'occasion d'élargir à la fois ton public et les occasions de présenter ton travail. Ce sont deux publics très différents ou alors ils se mélangent facilement?
Je pense que ça se mélange assez facilement et puis d'ailleurs c'est un peu une tendance, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a de plus en plus d'auteurs de thrillers qui sortent leur roman jeunesse. Mmh. Effectivement, ça peut être du thriller jeunesse. Hein, et donc, que ce soit Franck Thiès ou d'autres, là, ils sont tous en train de sortir. Alors, des fois, c'est sous forme d'une bande dessinée. Mais voilà, autour de moi, je fréquente tous ces auteurs hein, et je sais qu'il y en a plein qui ont envie de basculer. C'est en complément parce que très souvent, nos lectrices, ils adorent les thrillers et ils aimeraient bien mettre leur fils, leur fille ou des personnes de leur famille, les initier à cet univers. Et c'est vrai que le thriller fantastique, ça permet une première approche avec cet univers qui est toujours quand même un petit peu noir. Mais il y a le côté fantastique qui rend les choses peut-être plus excitantes pour les plus jeunes.
Alors le public young adulte est-il venu à ta rencontre? Ou ce sont les parents, voire les grands-parents qui ont acheté le roman pour leurs enfants ou leurs petits-enfants?
C'est vrai que bon là, je démarre un peu là, ouais. Là parce qu'il n'est pas très vieux. Mmh. Mais c'est vrai que les personnes qui l'ont acheté pour eux et également pour leurs enfants. Donc ils ont dit, mais voilà, je l'achète pour un tel, mais je vais le lire avant. Quoi. Parce que quand je leur explique l'histoire, quand je leur explique ce que j'ai voulu mettre dedans, eh bien, on s'aperçoit que ça va autant plaire aux parents qu'à l'adolescent lui-même. Quoi.
Alors après avoir exploré les tréfonds du trafic de corps, vers quels horizons ou vers quelle nouvelle obsession comptes-tu embarquer tes lectrices et tes lecteurs pour tes prochains romans?
Oui, parce qu'il y en a toujours plusieurs en parallèle. Il y en a un que je vais vous entraîner en 1929 avec un roman de gare où on va retrouver, j'ai ressuscité avec un ami scénariste, on est deux, on a écrit à quatre mains, on a ressuscité Rouletabille qui est dans une nouvelle enquête où il va être confronté avec le fantôme qui est un personnage mystérieux qui va l'obliger à être témoin d'un meurtre dont Rouletabille va devoir se dépêtrer et en comprendre les subtilités. Donc ça, c'est sûrement pour l'année prochaine. Hein, on va essayer de trouver une maison d'édition sur la fin d'année. Mais surtout, là, je suis dans mon nouveau Nathalie Lesage, donc la cinquième enquête de Nathalie Lesage, qui va démarrer à Lyon avec un Lyon un petit peu particulier. J'adore embarquer les lecteurs dans un univers où ils ne s'attendent pas. Hein. Je les avais embarqués déjà à Lyon dans les arêtes de poissons, découvrir un petit peu la franc-maçonnerie, avec Famille décomposée, découvrir une autre société secrète, plus Rasputin qui était venu, plus un médium célèbre qui est Maître Philippe de Lyon qui également intervient dans ce roman. Là, pareil, je ne veux pas trop encore en dévoiler, hein, je suis toujours dans l'écriture. Donc voilà, je vous promets un Nathalie Lesage très dépaysant. Par contre, ça va pas mal brasser Nathalie qui... Je ne vais pas en dire plus.
Non.
voilà. Est-ce que comme j'ai mon chapitre dans la tête pour le prochain, je voudrais rien lâcher. Ouais.
Bien. Tout à l'heure, nous évoquions les séances de dédicaces. Il est l'heure de passer à la rubrique quatrième de couverture.
Je ne vous connais pas, je vous frôle. Là sur le quai, épaule contre épaule. Sur les quatrièmes de couverture, nous cherchons la même aventure. Sur les quatrièmes de couverture.
Quatrième de couverture, ce sont nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates des prochaines séances dédicaces. Christophe, quel est ton dernier coup de cœur littéraire ?
Mon dernier coup de cœur littéraire, alors ça me désespère, mais depuis que j'écris, j'ai très peu de temps pour lire. Et finalement, le dernier coup de cœur que j'ai eu, c'est Éric Foissier avec son premier roman ou thriller sur les affaires occultes qui a vraiment fait démarrer l'auteur, hein, mais même si c'était son huitième roman, je crois. J'ai été happé parce que c'était vraiment un peu cet univers que je voulais développer, mais sur Lyon, un vidoc un peu comme ça, où je mélange un peu société et ésotérisme, et c'est vraiment ma came, et je voulais faire un équivalent sur Lyon. Bon, pour l'instant, c'est toujours en projet dans ma tête, mais effectivement, son roman est bien construit, et on voit qu'il a passé du temps pour faire des recherches, et son pari de l'époque, là, est fort bien restitué, quoi. Donc, ouais, puis il a une jolie plume, ouais.
Éric Foissier. À côté proposition de la quinzaine, notons le roman de Callan Wink, Les braconniers aux éditions Albin Michel, le thriller de Victor Delalbol, Le temps des bêtes féroces aux éditions Actes Sud, le roman de Charlotte Draclay-Schmidt, Alcibiade, le bâtard d'Apollon aux éditions Vérone, le thriller de Sébastien Gendron, Chien aux éditions Gallimard, le polar historique justement d'Éric Foissier, Les archanges de la nuit aux éditions Albin Michel, le thriller de Thomas Cantaloube, Les Trente Glorieuses aux éditions Gallimard, le polar d'Emmanuel Grand, Le sang des nôtres aux éditions Albin Michel, le roman de Sévin Saïn, La fille de la colline aux éditions Philippe Ray, les de la commandante Audrey Renard, Profileuse aux éditions Albin Michel, le roman de Céline Gis, que tu connais peut-être.
Oui.
Voilà, Jules Verne c'est et le copine. Gentilhomme cambrioleur aux éditions Montpoche. Le livre de Marc Barraud et Alain Colzy, Albert Batteux, une autre idée du football aux éditions Le Condottière. Connais-tu Albert Batteux ?
Pas du tout.
L'entraîneur de l'équipe de France de 58 et aussi de l'équipe de Saint-Étienne des bonnes années, à la fin des années 60, voilà.
C'est peut-être pour ça que je ne connais pas.
Voilà, entraîneur de Reims aussi, je crois, voilà. Le polar d'Eva Björk, Aegis de Tyr et Jérôme Loubry, Exil islandais aux éditions Point. Le livre de Marc Joly et Christian Savestre, En finir avec le déni aux éditions Anna Moza et le Cozy Crime de Momalo, La Bretz Brigade, La marée d'équinoxe aux éditions Point. Pour terminer l'émission, les dates de rencontres et de séances dédicaces. Alors tout d'abord, Christophe, as-tu des rencontres et séances de dédicaces dans les régions proches à annoncer ?
J'ai ce samedi où je vais toute la journée à la FNAC de Rouen.
Samedi 20 juin.
C'est ça, ce samedi 20 juin. Voilà. FNAC de Rouen, après je serai un peu plus loin, je serai du côté d'Autun. Puis pour passer un bon moment au mois de juillet, je serai carrément dans le Périgord, près de Sarlat, au Bug exactement, avec Noir Vézère, où je vais retrouver quelques amis du Noir. Et j'ai plein de rendez-vous dans la région. Jura et autour de Lyon, septembre et octobre.
Nous, on va annoncer ensemble, chacun notre tour, les séances dédicaces prochaines dans la région proche. Alors, je vais commencer le vendredi 19 juin 2026 à la librairie Buffet à Uyonnax, conférence sur la 9e symphonie de Beethoven par Laurent Vignat en lien avec son livre « Avaler l'étincelle » à 18h.
Pareil, le samedi 20 juin, toujours à la librairie Buffet à Uyonnax, Claude Perrier de 10h à 12h et de 15h à 18h.
À la Maison des Passages à Lyon, le Salon du Livre Politique à Lyon, livre Nouvelle Résistance de 10h à 19h.
Deux auteurs qui seront en dédicace à la librairie Montbarbon, de Bourg-en-Bresse. Donc il y aura Thierry Moiron et Luc Charine.
Thierry Moiron et Luc Charin. Non, Charin, ce n'était pas évident. Hein. C'est de 13h à 18h.
C'est ça, l'après-midi.
Ouais. Voilà, qu'on recevra la saison prochaine.
D'accord.
Le samedi 27 juin 2026, au Cultura à Champagne-au-Mont-d'Or, Arnaud Delâtre.
À la librairie des Marais à Villefranche-sur-Saône, Jean-Pierre Chantin de 15h à 18h.
Et à la librairie Trollune à Lyon, Victor Fleury, qu'on recevra aussi à la rentrée.
La semaine d'après, le vendredi 3 juillet, à la bibliothèque de Sertine, Aurore Brevet.
Et pour finir, le samedi 4 juillet 2026, à la FNAC de Bourg-en-Bresse, Luc Charin de 14h à 18h. Eh bien, Roman Gar, c'est terminé pour aujourd'hui. Christophe Royer, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B et de Roman Gar.
C'était un plaisir.
Plaisir partagé. Rappelons que tes deux derniers romans datent un thriller, L'Escadron Blanc, et un thriller fantastique pour les jeunes adultes, Doors Game, année 1989, sont parus respectivement en auto-édition le 31 octobre 2025 et aux éditions Hello le 10 avril 2026. On peut se les procurer dans toutes les bonnes librairies.
Hein, c'est ça, voilà. C'est ça.
Sans oublier tes autres romans.
Ah bah oui, bien sûr.
Voilà. On peut suivre ton actualité sur Internet via les inévitables réseaux sociaux.
C'est ça, Instagram et Facebook principalement.
Bien. La prochaine invitée de Roman Gar, le jeudi 3 septembre 2026, tu la connais, sera Marie-Chantal Villon.
Oui, je vais aller fréquenter son salon pour la première fois à Chapolard.
Organisatrice du salon Chapolard, que Christophe connaît bien, et je pensais que tu étais déjà venue.
Elle m'attend tous les ans, pour la première fois, je vais pouvoir y aller.
Bien. Et dans la 7e édition, aura lieu à l'espace Jean Gabin à Chaponnet, dans le Rhône, non pas un dimanche, mais le samedi 3 octobre 2026. Christophe, bonne chance pour la suite de tes aventures de romancier.
Merci.
Bonne séance dédicace, bon salon et à bientôt sur Radio B.
À bientôt.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.